vous l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne, vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin. Épisode numéro 106. La roseuse arrosée, Françoise Urban, ménager. Ah, chers amis, bonjour. Fermez les yeux. Ça y est, vous avez fermé les yeux et voilà, vous voyez la vie en rose. Enfin, vous voyez des roses, des fleurs, pas uniquement la couleur. Vous l'avez bien connu, notre émission, ce n'est pas le monde de Barbie, nous ne sommes pas dans les clichés avec des bons sentiments qui dégoulinent partout. Non, nous sommes ici avec un bouquet plein d'épines, ça pique et ça sent bon. Bonjour Françoise Urban-Méninger.
Bonjour Ambroise.
Alors pour résumer votre carrière de poète dans les roses, on pourrait dire que vous faites pousser des roses au bord des volcans.
Au bord des volcans, c'est un grand terme. Et c'est tout simplement les volcans, c'est le thème du Printemps des poètes 2025.
Eh bien voilà, et vous êtes l'auteur de plusieurs dizaines de recueils de poésie, dont l'un des derniers est intitulé « La musique des roses ». Alors, la musique, alors moi j'ai dit Méninger, mais on devrait dire Méninger.
Méninger, moi j'ai toujours entendu Méninger.
Méninger, voilà. Donc, voilà. Donc, la musique des roses, et vous nous invitez donc en tant que présidente de la commission littéraire de l'Académie Rhénane à une séance du printemps de la poésie sur le thème donc
Des volcans.
Et ce sera le samedi 22 mars 2025 à Strasbourg, dans la salle du Münsterhof. Alors, avec une dizaine de poètes alsaciens qui liront...
À 10h, n'oublions pas l'heure, c'est le matin.
Ah, à 10h du matin.
Oui.
On n'est pas encore couché, là. Donc, on va directement...
Voilà. Tout ce qu'il
donc,
faut,
à
la
10h du matin,
voilà.
le samedi, donc la poésie, ça se mérite. Dans la salle du Münsterhof, qui est rue des Juifs à Strasbourg. Mm-hmm. Et donc, une dizaine de poètes alsaciens qui liront leur vers volcanique. Alors, tout d'abord, Françoise... Vous êtes, semble-t-il, amoureuse des roses, et l'on sait que les roses, on les baptise. On leur donne des petits noms. Alors, est-ce qu'il existe une rose qui serait nommée volcan ?
Ça, je ne pourrais pas le dire, mais les roses, cette musique des roses vient de très loin. Et je ne suis pas la seule à avoir écrit sur les roses. Des poètes, justement, leurs textes résonnent, leurs vers viennent rencontrer les miens. Il y a Rilke, notamment, il y a Sylvia Plath, il y a Virginia Woolf, il y a Aragon. Tous les poètes ont écrit sur les roses. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, les roses ont des épines. Ce n'est pas toujours la petite fleur que l'on respire.
Puis les petits-enfants à l'école aussi. Je récite souvent ce petit poème. J'aime deux choses, toi et la rose.
Oui.
La rose pour un jour. Et toi pour toujours, ma maman chérie adorée.
Hein. C'est les petits poèmes qu'on avait dans les carnets. Je ne sais pas si tu te souviens, Ambroise, mais on avait des petits carnets d'amitié à l'époque.
Et qu'on échangeait.
Et voilà, avec des petites photos. Et c'était bien sympathique.
Alors, en cherchant dans un dictionnaire botanique du 19e siècle, j'ai quand même trouvé plus d'une centaine de noms de roses différents. Souvent, le jardinier ou le botaniste donnait le nom de quelqu'un de connu, de sa bien-aimée. Je sais qu'il y a une rose qui s'appelle Diana,
en l'honneur
de la princesse
bien
Diana.
Sûr.
Voilà. Mais si on va chez le fleuriste, on dit « je voudrais une Diana », ça, non.
Ah, ben je ne sais pas, ça, je n'ai pas essayé. Moi, j'aime les roses anciennes.
Oui.
Pas les roses qui ont été greffées, qui ont été transformées. On trouve de belles roses anciennes à Schiltigheim, dans la roseraie.
Mais comment on fait pour planter des roses anciennes dans son jardin ? Parce que on trouve les graines anciennes.
C'est les plants. Il faut peut-être voir avec les jardiniers. Il y a
des bibliothèques de graines, ça je sais.
Oui, il y a des bibliothèques de graines, mais c'est surtout les plants qu'on peut greffer. Il faut rencontrer des jardiniers et puis voilà, s'initier un petit peu.
Mais votre métier, ce n'est pas jardinier, non.
Bah, si, dans la poésie, pour moi, je suis jardinière de l'âme.
Jardinière c'est comme ça que de l'âme.
Oui, oui.
Oui, mais poète. Poète, vos papiers, c'est pas un métier.
Mais en fait, moi, je pars toujours du jardin extérieur. J'aime bien écrire dans les jardins pour revenir au jardin intérieur. Donc, le jardin est très important. Dès la naissance, moi, j'étais dans un jardin. J'ai toujours eu la chance d'avoir des jardins. Et ça nourrit mon écriture.
Alors, dans le titre de cette émission... Hein, vous l'avez bien connu sur Radio Judaïca Strasbourg, je me suis amusé à vous donner le nom de la roseuse. Bon, arroser, hein, la rose.
Oui,
petite astuce.
C'est un peu...
Oui, un peu
lourdingue. Un peu tiré par les cheveux.
Oui,
hein.
Mais j'aime bien. Et vous avez, parce que je me fais plaisir. Hein,
oui, il n'y a pas de plaisir. Raison.
Mais
oui.
Est-ce que vous avez vraiment un jardin où vous faites pousser des roses?
Oui, oui, oui.
Et où vous les arrosez, bien sûr.
Bien sûr. Bah, c'est à Kunheim, le petit village où il y a beaucoup de urbans. Ça remonte presque jusqu'à la Révolution. Et mon grand-père avait construit cette maison. Il y avait mes arrière-grands-parents. Donc, voilà, ce jardin est enraciné dans ma mémoire, dans mes gènes. Et c'est surtout ma mère qui plantait des roses, déjà à Mulhouse, dans la petite maison de cité. Et l'image m'est restée quand elle est partie. C'est cette image qui revient de la voir, en revenant de l'école, tailler les roses du jardin. Et ces roses reviennent. C'est une mélodie, c'est une musique.
Il faut les protéger l'hiver, du froid non ?
J'ai des roses assez résistantes.
Oui.
C'est rare.
Est-ce que vous avez des roses de toutes les couleurs ?
Oui, j'ai des roses blanches que j'aime beaucoup. Des
mais
roses
des
très
roses,
pompons.
Blanches
voilà, exactement.
Pour ma petite maman.
Tout à
voilà.
fait. Des roses qui vont vers le rouge, des roses presque mauves. Il y a vraiment tout un éventail de couleurs.
Et des roses noires ?
Des roses noires, non. Ça, mais j'ai
ça,
des
ça
iris.
Ça existe.
J'ai des iris noirs.
Des iris, mais des roses noires, je me
oui,
souviens.
Je crois
que c'était à Cambridge. Un professeur, là où j'avais fait un stage, il était très fier de dire qu'il avait des roses noires. Bon, les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique. Alors ça, c'est Ionesco, je cite ça comme ça spontanément par cœur. Je ne sais plus si c'est dans la leçon ou la cantatrice chauve, je crois que c'est dans la leçon.
Oui. Ah oui, c'est oui, possible. Oui.
Voilà, les roses de mon grand-père étaient aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique. Bon, c'est rigolo. Bon, alors, publier de la poésie en 2025.
Bah écoutez...
Sur papier en plus, je dis.
Oui, oui, bah écoutez, ça a l'air de très bien marcher, la poésie.
Vous faites des gros tirages parce que là, vous sortez un recueil tous les deux ou trois mois.
Je ne fais pas des gros tirages, mais j'ai un blog... L'heure du poème, et il y a beaucoup de lecteurs. J'ai des milliers de lecteurs, et j'ai vu dernièrement dans un magazine qu'il y a des jeunes sur Instagram qui sont suivis par 4000, 5000 followers. Donc la poésie a repris. C'est une forme. Pour moi, c'est le dernier espace de liberté dans ce monde où la fuite en avant est de mise. C'est ce que je dis toujours.
Le dernier espace de liberté.
Alors, ah, oui.
Est-ce que Trump lit de la poésie?
Ah, ça, alors là, quelle question.
On pourrait parier que non.
Oui, 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 oui. Ça, je ne pense pas.
Oui. Et alors, est-ce qu'on lit encore de la poésie? Parce que, à part le... Ou est-ce qu'on écrit plus de la poésie qu'on en lit?
Bah, je pense que les gens lisent de la poésie, oui. Dans les parcs ou autres, on fait des lectures publiques. Dans le petit village dont je vous parlais, tous les ans, on a une journée jardins ouverts. Il y a 5-6 jardins qui s'ouvrent au public avec des artistes. On y lit des poèmes, on y fait des spectacles de marionnettes, de la musique. Et oui, les gens aiment la poésie, je pense. Bah, ça, tout dépend.
Et donc, chère Françoise, est-ce qu'on achète encore des recueils de poésie ou est-ce qu'on simplement les distribue à sa famille, à ses amis? Parce qu'on n'en trouve pas sur les rayons des librairies. Hein. Les libraires, ça les intéresse
on
pas.
On en trouve dans les salons du livre. Et puis, moi, j'ai, en ce qui me concerne, des lecteurs, des lectrices qui m'en prennent 5, 10 à la fois. Et ils en font provision, et quand ils sont invités, eh bien, ils les offrent. J'ai des mécènes, en quelque sorte.
Ah oui, donc au lieu de venir à un repas et de venir avec un bouquet de fleurs,
voilà.
On vient avec un bouquet de roses
voilà.
En musique.
Et oui, tout à fait. Et puis, bon, ce n'est pas périssable. Et c'est vrai que la poésie a quelque chose d'intemporel. Même des recueils publiés il y a 30 ans, comme c'est dans mon cas, eh bien, ils sont intemporels. La poésie, c'est quelque chose qui reste.
Alors, justement, il y a une opération de sauvetage ou alors de promotion nationale de la poésie, hein, donc le printemps de la poésie, c'est un événement national et c'est vous qui le déclinez à Strasbourg dans le cadre de l'Académie Rhénane. Donc, ça se passe samedi prochain. Racontez-moi
oui.
Un petit peu.
Eh bien, il y aura une quinzaine de poètes. Et nous avons Joan Ott, qui est bien connue ici à Strasbourg, et qui chantera, qui lancera ce récital en chanson. Et ce récital, cette année, est exceptionnel parce que nous souhaitons le dédier à Jean-Claude Walter, ce grand poète, cet immense poète qui nous a quittés récemment.
Agnovien.
Voilà, donc c'est sa fille qui lira le premier poème. Elle a choisi un poème volcanique, hein, on restera dans le thème, parce que c'est quelqu'un qui avait une forte personnalité. Et nous aurons un accordéoniste, Christian Etzelman, qui, entre les différents poèmes, interprétera des intermèdes. Et puis, il y aura les chansons de Joanne pour agrémenter. Ce seront des contrepoints musicaux et chantés.
Et il y aura donc une dizaine de poètes strasbourgeois, dont le célèbre Ambroise Perrin, mais
voilà,
ça, c'est un secret.
Voilà, exactement.
Donc, qui...
qui démarrera de manière volcanique ce récital.
Oui, oui, c'est une surprise. Mais donc, qui ont écrit spécialement des textes pour cet événement.
Je ne sais pas, parce qu'il y en a qui, de toute manière, écrivent pour eux le mot volcanique. Voilà, peut être interprété de différentes manières. Par exemple, Chantal Robillard, elle, c'est du volcanique pur, puisque, comme elle le dit souvent, elle est née dans les volcans de son origine natale.
Dans le Puy de Dôme.
Oui, ou en Auvergne, je ne sais plus, je cherche le nom du volcan. Mais enfin, bon, elle vient de publier un recueil sur ce thème-là. Et là, c'est vraiment volcanique. Mais autrement, il y a des poèmes, si on écoute la poésie d'Aimé Césaire, c'est volcanique en soi. Ça vient du profondeur, c'est cette poésie-là qui est volcanique.
Oui, le mot volcan se prête à toutes les métaphores.
Exactement.
Voilà, voilà. Ah, comme Foulcan aussi, non, mais là je plaisante.
Non, c'est le cri qui vient de profondeur. Comme oui. Je le disais, c'est un cri qui vient de très loin et qui nous relie les uns aux autres aussi.
Oui, le volcan, oui. Alors bon, il y a des célèbres volcanologues alsaciens.
Oui, les Kraft, que j'ai vus moi, puisque quand j'étais au collège avenue Kennedy, ils venaient tous les ans. Parler de leurs expériences, de leurs aventures. Oui, il y avait des soirées diapo. Et je me souviens que Katia Kraft m'avait beaucoup impressionnée.
Oui, oui.
Et leur disparition m'avait vraiment émue.
Moi, ce que j'adorais, c'était le fait que cela semblait totalement inutile, aller se balader et tout, alors que, bon, il y avait des raisons, des stimulations, disons, scientifiques pour aller là-bas. Mais en fait, ils y allaient vraiment pour le plaisir, quoi. C'était jouer avec le feu, ça c'est...
Mais oui, ils savaient qu'ils jouaient avec le feu. Oui. C'est pour ça, ils nous l'ont dit souvent, qu'ils ne voulaient pas avoir d'enfants, parce qu'ils savaient qu'ils risquaient leur vie.
Oui. Est-ce qu'on risque sa vie en écrivant des poèmes ?
En écrivant des poèmes, non. Je crois que de lire de la poésie peut sauver une vie.
Oui,
je
mais il y a des poètes qui ont été arrêtés parce qu'ils étaient poètes.
Oui, bien sûr. Ah. Oui, bien sûr. Parce qu'on
Neruda, par exemple, qui a été... Oui.
Mais ça peut aussi sauver des vies. Bah, quelqu'un qui a justement plus le goût de vivre peut tomber sur un recueil de poèmes. J'ai lu ça quelque part dans un taxi. Oui, oui, puis qui lui a redonné le goût de la vie. Oui. Mais c'est vrai que de dire certaines choses en poésie, on peut être, on peut être banni. Bah, justement, il y avait à la BNU Skalova, c'est une russe et qui est opposée à Poutine. Et il y a beaucoup de jeunes femmes, des féministes russes, s'opposent à Poutine par la poésie. Et par exemple, il y a une jeune femme qui avait été internée parce qu'elle avait montré des images sur la contraception, sur la sexualité. Et toutes les femmes poètes, pour la soutenir, ont écrit un poème. Il y en a une centaine, dont le titre était Le Vagin. Donc c'est vrai que la poésie peut aussi transcender certaines, certaines choses et être une arme. Mmh. Il y a une écrivaine suisse, Barbara Pola, qui dit que la poésie est une arme sans blessure.
Oui, ça peut être aussi le poignet. Hein, je crois que c'est Pinochet qui a fait trancher la main d'un guitariste poète pour qu'il ne puisse plus exercer son art et avoir son influence donc révolutionnaire. Mmh. Sur les gens qui s'opposaient au fascisme. Oui. À Strasbourg, nous avons une maison de la poésie.
Hein, oui,
nous
qui avons est en train de se construire, voilà, avec Mathilde Leclerc. Hein, oui.
Voilà, récemment. Voilà. Et donc, c'est quelque chose qui est en train de se bâtir. Donc, la poésie est toujours de l'avenir.
Ah, il y a plusieurs choses. Hein. Oui. Il y a aussi la maison alsacienne de poésie de Tristan Colovray. Ça couvre toute l'Alsace et il fait beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'événements qui se préparent. Il a créé des ateliers d'écriture autour de l'Ukraine, les guirlandes de poésie en soutien à l'Ukraine. Et ça va être publié avec le soutien de la CEA d'ailleurs.
Alors, savez-vous, Françoise Urban-Méninger, que nous sommes gastronomes dans cette émission, vous l'avez bien connue, hein, avec une prédilection pour la confiture de framboise et la célèbre tarte au fromage de la rue Gaillère. Alors, chère Françoise, pouvez-vous nous communiquer une bonne recette de confiture à la rose ?
Confiture à la rose.
Parce que les roses, ça se
mange. Oui, bien sûr, même les roses en sucre. Bah, je dois dire que vous êtes mal tombée parce que moi, les confitures, je les rate toujours. Ah. Donc, j'ai une cousine dans le village et je lui apporte des livres et en échange, elle me donne des confitures.
Alors, moi, j'ai un petit souvenir de ma chère grand-mère qui faisait une gelée de pommes et elle y rajoutait des pétales de roses. Et on mangeait les roses. Et elle nous disait qu'on pouvait les manger.
Oui, bien sûr. Et puis j'adore les loukoums à la rose, par exemple.
Et si les roses étaient fanées, on les jetait à la fête Dieu, je crois,
devant,
pendant les...
Ah, les processions. Moi, j'aimais bien ces processions parce que à Mulhouse, dans les petites maisons de cité, là, il y avait plein de jardins. On allait les ramasser, puis on s'amusait avec une amie à les jeter comme des confettis.
Voilà. Alors, d'où vient quand même l'inspiration pour la poésie ? C'est comme ça, tout d'un coup, on a une idée et puis on la sort et on écrit son poème ? Ou est-ce que c'est un travail comme d'écrire un roman ? On fait un plan, on travaille ses personnages, on fait une structure, on se lève à 4 heures du matin parce qu'autrement, ça n'avance pas pour écrire comme ça tôt, tant que les autres dorment encore. Comment faites-vous pour écrire de la poésie ? Ou alors, tout d'un coup, vous avez votre échéance, il faut absolument 30 textes pour l'éditeur, pour...
Non, c'est, ça part d'une sensation, souvent. J'ai écrit un poème, les magnolias ne sont pas encore en fleurs, mais un jour, j'ai traversé le parc Place de la République, et tout de suite, le poème est venu. Pour moi, c'était une musique.
Les magnolias de la Place de la République, avec puis, les ginkgo tout autour.
Oui, les ginkgo biloba, et puis les fleurs, mais il y a d'autres choses, il y a d'autres sentiments. Ou alors, c'est très différent, c'est la colère, je vois ce qui se passe dans le monde. Et là, c'est souvent sur le plan poétique des muses, c'est un site féministe, mais là aussi, on peut pousser des cris de colère. Et j'ai écrit des poèmes aussi pour la libération de Cécile Colère de Soultz, et qui a été traduit en perse. Et puis pour Boalem Sansal aussi. Voilà, la poésie, pour moi, c'est la seule arme que j'ai.
D'accord. Mais alors, il y a aussi des gens qui écrivent de la poésie pour eux, simplement, dans leur petit cahier.
Oui.
Hein, on peut que les encourager.
Bien sûr.
Et parfois, ils ont la gentillesse de ne pas les publier pour ne pas embêter leur famille ou simplement... Ils font quelques photocopies pour les offrir à Noël. Donc, c'est méchant, ce que je dis ?
Je ne sais pas. Non, je crois que chacun est libre. Mais moi, je ne pars pas de ce principe-là. J'ai envie, disons, mes meilleurs poèmes, parce qu'il y en a beaucoup qui vont à la corbeille. Et puis, on parlait du travail du poète. Il y en a certains qui viennent comme ça. Mais d'autres, je mets 3 jours. Je rature, je cherche. Je pense que j'épure. J'écris des poèmes assez courts.
Et ça vient pas d'un seul coup, c'est un travail.
Parfois, ça vient d'un seul coup, mais d'autres, oui. C'est comme les nouvelles. J'écris beaucoup de nouvelles aussi qui partent souvent d'un poème.
Et alors, vous utilisez un dictionnaire des synonymes.
Non, pour l'orthographe parfois, parce que comme tout le monde, je peux faire des fautes. Je sais jamais comment il faut écrire susurré, s'il faut 2 R ou 2 S. J'ai beau m'essayer de...
Et l'imparfait du subjonctif, là, vous avez le Becherel pour...
Oui, là, oui. Non, mais là, ça va encore.
Non, ça va encore.
C'est des mots comme ça qui...
Oui.
Et puis, à force de lire des fautes d'orthographe dans les journaux et autres, on finit par être atteint. Combien de journalistes disent un interview au lieu d'une interview ? Il y a énormément, ou bien une espèce, il faut dire une espèce, pas un espèce. Il y a plein d'erreurs comme ça continuellement.
Voilà, vous avez été prof dans une
vie jadis,
antérieure.
Oui. J'ai enseigné la philo, un master, oui.
Et ce passé de prof de philo, ça vous influence peut-être quand même, non ?
À la philosophie, oui, de toute manière. Ça permet d'avoir un esprit assez synthétique et puis d'aller, je l'espère, à l'essentiel.
Alors, l'essentiel, ce sont les roses. Et je salue votre avant-dernier ouvrage qui s'appelle « Les roses en musique ».
La musique des roses.
La musique des roses.
Mais il y en a un autre, le tout dernier, c'est « La mémoire poétique ».
La mémoire poétique. Merci beaucoup Françoise Urban-Méninger. C'était l'épisode numéro 106 de Vous l'avez bien connu, la roseuse arrosée, Françoise Urban-Méninger. Chers amis, lisez de la poésie. Et si ça vous ennuie, alors écrivez de la poésie. Vous adorerez vous relire. Alors, la semaine prochaine, nous recevrons Philippe Douroux, un confrère journaliste. Il a travaillé à Libération. Il a écrit un livre intitulé « Un père ordinaire ». Et je vais l'interviewer sur le sentiment de trahison, comme un autre journaliste de Libération aussi, Serge Chalandon, qui avait pendant 30 ans un ami irlandais militant de l'IRA. Et c'était un espion britannique. Et Philippe Douroux, lui, il a écrit sur son père, qui était un Français de la LBF, engagé volontaire dans la Waffen-SS, sur le front de la Biélorussie, avec les massacres des Einsatzgruppe. Comment vivre avec un tel exemple dans sa famille ? Un livre donc, un père ordinaire sur son papa. Vous l'avez bien connu tous les mardis à 11h30 et le dimanche à midi, à la technique Thomas Marinelli, et mon nom est Ambroise Perrin.